RMC After Lyon.
Aurélien Piersin.
Amis lyonnais, bonjour, bienvenue dans l'After Lyon. Et ça y est, l'Olympique lyonnais est en Ligue des Champions, quatrième de Ligue 1. Le verdict est tombé, mais l'OL s'est écrasé au Groupama Stadium malgré un public chaud bouillant. Défaite contre un Lens bis 4-0 à la maison. Donc émotion paradoxale pour cette dernière journée de Ligue 1. On va débriefer tout ça et on va se projeter sur la saison prochaine. Que peut faire Lyon en Ligue des Champions? Le match, il l'a commenté, il a été déçu comme nous tous. C'est notre correspondant à Lyon, Edouard G. Salut Edouard.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Supportrice lyonnaise, évidemment habituée de l'After Lyon, Annalie Simon. Salut Annalie.
Salut Aurélien, salut tout le monde.
Et on a le plaisir de recevoir Jean-Marc Chanelet, double champion de France avec l'Olympique lyonnais, une Coupe de la Ligue également au palmarès. Salut Jean-Marc.
Oui, bonjour à tout le monde.
Allez, c'est parti pour le dernier After Lyon de la saison. Bon, déjà Jean-Marc, on est ravis de te recevoir. Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui, si tu es toujours dans le football.
Non, je ne suis plus du tout dans le football. Hein. Je n'ai plus les connexions qui m'ont permis d'y rester, hein, même si je suis toujours encore en recherche, on va dire, d'un poste dans une cellule de recrutement. Mais autrement, non, voilà, j'ai pour l'instant pas d'activité dans le football.
D'accord, mais avec un œil toujours, j'imagine, sur l'Olympique lyonnais, toi qui as grandi dans la région à Oulens, je crois.
Oui, tout à fait, oui, bah, toujours, forcément. Je n'ai pas été souvent au stade, mais bien sûr qu'on suit toujours les résultats de l'équipe de cœur.
Le résultat hier, donc, puisqu'on enregistre lundi 18 mai, il a été catastrophique. Défaite 4-0 au Groupama Stadium face au Racing Club de Lens, qui avait en plus aligné beaucoup de remplaçants habituels. Mais le paradoxe, c'est que la soirée se termine bien, entre guillemets, puisque tu termines quatrième malgré tout, donc qualifié pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Annalie, je vois que tu hoches la tête, les yeux dans le vide. T'en ressors comment de cette soirée, justement, avec le sourire malgré tout, puisque au début de la saison, en quatrième, on aurait signé. Mais tu prends une claque démentielle à domicile.
Bon, on en avait déjà pris une la semaine dernière à Toulouse. Et là, mais celle-là, elle fait mal. Parce que 4-0 à domicile face à une équipe remaniée de Lens qui, bon, avait forcément en tête...
Comme quoi, Pierre Sage, il n'est pas si sympa.
Voilà.
On pensait qu'il allait être sympa, mais il n'est pas si sympa.
Après, on ne s'attendait pas à un cadeau de sa part non plus. Hein. Donc voilà, Pierre Sage a fait ce qu'il avait à faire. Il a très bien fait. Mais c'est vrai que la soirée d'hier était un cauchemar de bout en bout. La prestation, il n'y a aucun joueur à ressortir en particulier. Le seul joueur qui a... Enfin, la seule personnalité qui a joué son rôle hier, c'était le public.
On va en parler, ouais.
Qui a rendu un magnifique hommage au petit prince de Gerland. Mais après, en termes de jeu, c'est un peu catastrophique pour finir cette saison qui, tu l'as dit, on finit quatrième. Et c'est vrai qu'au mois d'août, quand on a joué la première journée, si on nous avait dit qu'on finirait quatrième à la fin de saison...
Mais malgré tout, le sourire, tu l'as pas ce matin, là. Je te vois, t'es un peu... Tu dis, ça se termine pas très bien,
ça
quoi.
Ça se termine pas très bien parce qu'on pouvait terminer troisième, parce que du coup, Lille a perdu. Mais en fait, vu la prestation d'hier, la prestation des deux dernières semaines, on avait toutes les cartes en main après le match de Rennes, pour moi l'un des meilleurs matchs de la saison, et puis après tout s'est cassé la figure.
Oui, quoi. C'est vrai que c'est assez incompréhensible, Jean-Marc. Toi, quand tu vois le Lyon-Lens de la dernière journée, donc en plus la semaine dernière, on était avec Pierre Laigle, on se rappelait les merveilleux souvenirs de 2002, on se dit, tiens, Lyon-Lens, c'est un signe du destin, ça va bien se passer. Et comment on explique une telle déroute à domicile?
C'est vrai que moi j'étais abasourdi par la prestation de notre équipe là, hier soir, et puis surtout leur manque de réaction. À aucun moment donné, ils sont arrivés à redresser la tête. On les sentait, ils subissaient. Hein, alors à la décharge,
pour excuser pour dire, un peu les
pour ressortir, pour j'allais dire un joueur peut-être de l'équipe lyonnaise. Moi, je trouve que le Moreira est celui qui a été le plus méritant dans ce match-là, et que si les joueurs s'étaient au moins mis au niveau de Moreira, on n'aurait pas pris ces 4-0-là. Mais globalement, voilà, il y a une équipe apathique, et je ne sais pas, est-ce que c'était l'enjeu, est-ce qu'il y avait une fatigue physique, mentale, morale?
Tu as déjà connu, toi, justement, dans ta carrière de joueur, un moment donné où tu dois gagner, où tu te dis sur le papier ça va être simple et tu n'arrives à rien?
De toute façon, un match, il est simple une fois qu'il est gagné, entre guillemets, mais au départ, c'est vrai que chaque match est important, puis on ne connaît jamais le scénario du match. Ça peut arriver des fois qu'on ait cette sensation un peu d'impuissance collective et sans vraiment arriver à trouver la raison. Parce qu'on ne rentre jamais sur un terrain comme ça en se disant « allez hop, je ne fais rien ». Là, on a vraiment senti une équipe qui était incapable de réagir, qui était mangée dans tous les domaines. Et j'imagine que là, les joueurs ont dû vraiment sortir frustrés de cette prestation, et qui plus est, en manquant la troisième marche là, du podium.
Bah justement, Clinton Mata, un des piliers de cette équipe lyonnaise cette saison, était à ton micro. Edouard, à la fin du match, on peut l'écouter. L'avantage, c'est que Clinton Mata ne se cache pas. Les joueurs savent qu'ils ont fait une prestation cata.
Avouez que ce soir, on n'a pas été à la hauteur. Le match a été catastrophique du début jusqu'à la fin, même si voilà, on a essayé de réagir en seconde période. On est vraiment passé à côté de notre match, de ce match-là, en tout cas un match super important. Il y avait encore la possibilité de pouvoir se qualifier pour la Champions League direct. Mais voilà, on va pas... Aujourd'hui, on est quatrième, on ne va pas aussi se plaindre. Et quand on prend un peu de recul, il faut aussi se dire qu'on vient de loin.
Edouard, donc toi qui as commenté le match, qui a été en zone mixte après donc pour rencontrer les joueurs, qu'est-ce que tu as ressenti pendant le match et après le match comme ambiance à Lyon ?
Alors, c'est vraiment bizarre, quoi, en fait. Comme le disait Jean-Marc, quoi, en fait, on n'a jamais senti que les Lyonnais ont mis les doigts dans la prise et que se sont branchés sur cette rencontre. Sauf peut-être les deux premières minutes, avec l'accélération d'Hendrick, là, qui met en difficulté Malanxar, avec un carton jaune. Et on se dit, là, Hendrick, il a l'air en feu. Malanxar, il a un carton, donc, et puis il ne veut pas prendre un rouge parce qu'il est à la finale de la Coupe de France. Donc, il va défendre tranquillement. C'est presque une brèche de plus ouverte par les Lensois, parce que Pierre Sage, d'une certaine manière, et Djamel Alaoui, ils ont quand même fait un beau cadeau, hein, parce que 9 titulaires absents du match de mercredi, tout le monde au repos pour la semaine prochaine, bref, que l'équipe B, d'une certaine manière, mais on voit quand même que les principes de jeu sont partagés par tous, donc ça c'est quand même une sacrée réussite pour le staff de Lens. Mais moi, c'est assez bizarre, parce que c'est rare d'avoir ça. En tout cas, moi, ça m'a rappelé mon été en Islande l'année dernière, parce que j'ai découvert un temps qui pouvait être venteux dans les 2 minutes, découvert avec du soleil, après un orage, après des belles couleurs, bref, un mix de sentiments presque dans la même heure. Parce que hier soir, on avait un vainqueur qui était totalement gêné, qui s'excuse presque de gagner, un vaincu qui est partagé parce que, comme Clinton Mata, ouais, on est honteux, mais on est heureux aussi. Et puis le public qui, mine de rien, crée quand même une ovation à ses joueurs, avec un Corentin Tolisso, un Paolo Fonseca qui prennent le micro et qui parlent au public. Moi, j'ai connu des qualifications directes en Ligue des Champions où le stade était boudeur. Ah oui. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un mix de sentiments qui est assez étrange. On ne peut pas en sortir un plus qu'un autre. C'est assez bizarre.
Et d'ailleurs, raconte-nous quand même l'ambiance qu'il y avait au stade, parce que quasiment 60 000 personnes, tout le monde en blanc, l'hommage à Fleury Dinalo. C'était une soirée particulière. Normalement, ça aurait pu être une très grande soirée de l'histoire lyonnaise. Et bon, c'est vrai que tout retombe, le soufflet retombe et est retombé très très vite.
Ouais, ça aurait dû emmener tout le monde. Alors en fait, Jean-Marc, toi, tu peux plus en parler. Le stade qui envoie un peu les joueurs sur le terrain, qui envoie des ondes au public pour amplifier un peu tout ça. Là, il y avait le public qui donnait de la voix, mais finalement, ça les a pas fait décoller, les joueurs. C'est là où c'est... Alors, il y a eu des sifflets au retour au vestiaire.
Mais vous êtes en colère un petit peu tous là, chacun. Je vous demande la question à tous les trois, Jean-Marc, Anali et Edouard. Il n'y a pas un peu de colère quand même de faire une prestation comme ça à la dernière journée pour faire plaisir à ton public, parce qu'on les excuse en disant on part de loin, il y a quand même la qualification en Ligue des Champions à la fin. Mais comment tu peux terminer 2 journées pareilles, Anali?
Un petit peu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends pas comment tu peux passer de l'un des meilleurs matchs de la saison à 2 prestations, parce que même la prestation à Toulouse, c'est alors moins dans la catastrophe, mais c'était quand même pas terrible non plus. Le néant, en fait, c'est compliqué. Et puis en plus, sur les dernières saisons, l'OL avait l'habitude de sortir de très grands matchs sur le dernier match à domicile. J'ai le souvenir d'un OL Monaco quand on gagne 6-1 en 2017 pour aller chercher la C1. Mais là, il y a de la colère, oui, parce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique qu'on n'a pas vu depuis 2020. On y est en Ligue des Champions, mais en fait, on se complique grandement la tâche. On en parlera peut-être plus tard.
Ah bah oui, avec, oui, oui. Avec on va se projeter sur l'été.
Un parcours du combattant à venir. Quoi.
Évidemment, Edouard va nous raconter tout ça. Simplement, pour terminer, on va peut-être pas faire d'évaluation joueur par joueur parce qu'il n'y a pas grand-chose à sortir de cette OL Racing Club de Lens. Mais Jean-Marc, est-ce que selon toi, c'est une équipe qui manque de caractère? On a souvent vu un Niakate, un Tolisso, Morton, par moments Schultz, Moreira, avec du caractère. Mais là, sur un dernier match comme ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu inquiétant avant d'attaquer des matchs de Coupe d'Europe, de s'écrouler aussi vite, quoi.
Bah, oui, effectivement, il y a une sorte d'incompréhension et de frustration, je trouve, parce que les leaders, justement, de l'année, on ne les a pas vus. Je regardais un peu le langage corporel des joueurs, ils étaient abattus. Tolisso, on sentait, il n'était pas dans le truc. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur leurs épaules ce soir-là. Est-ce qu'inconsciemment, il y avait une décompression, une décompensation du fait de dire ben, finalement, on est européen et au regard de ce qu'on a fait sur cette première saison, c'est bien. Mais voilà, on a senti une équipe sans caractère, sans leadership. Et puis voilà, ça s'est traduit par cet effondrement-là.
Edouard, simplement, on va donc se projeter sur l'été à venir. On va essayer de retrouver le sourire quand même, puisqu'on a beau être en colère ou très déçu en tout cas de la prestation, il y aura des tours préliminaires donc de Ligue des Champions, peut-être une qualification en phase de Ligue. Mais il faut rappeler que pour le quatrième de Ligue 1, c'est loin d'être facile. Il y a un troisième tour préliminaire, puis des barrages. Et ce n'est pas la voie des champions des petits pays, c'est la voie de Ligue. Donc tu peux rencontrer des clubs très très costauds dans les tours préliminaires.
Oui, il y a ça. Alors pour l'instant, on ne connaît encore pas trop qui peut être les potentiels adversaires de l'OL. Mais vous rajoutez une difficulté cette année parce que le championnat reprend le 23-24 août. Et ces matchs, le Q3, comme on dit, le troisième tour de qualification, c'est le 4-5 août. Donc ça oblige presque à avoir 3 semaines d'avance au niveau de la préparation. Ça veut dire que là où théoriquement c'était mi-juillet la reprise, pour le championnat le 24 août, eh bien, ça va plutôt être fin juin. On n'a encore pas les dates, mais ça devrait être un petit peu dans ce côté-là. Donc, il y a tout cet aspect athlétique à mettre en place déjà. Et puis, ça veut dire que dès le 18 mai au matin, là où Lille, Lens et le Paris Saint-Germain peuvent déjà faire des projections avec l'argent qui va tomber de la Ligue des Champions, là, il faudra attendre le 28 août, en gros. Ça vous décale tout dans un moment où il faut reconstruire aussi le club en coulisses parce qu'il y a beaucoup de chantiers, on en reparlera peut-être. C'est compliqué au niveau athlétisation de tout le monde, au niveau mercato. Voilà, c'est un vrai casse-tête, même si hier soir, que ce soit Paulo Fonseca ou Mathieu Louis-Jean, là-dessus, on a voulu à chaque fois positiver.
Oui, d'ailleurs, ça veut dire qu'on l'OL ne pourra pas recruter du lourd, entre guillemets, en prévision de la Ligue des Champions et pour essayer d'aborder les barrages de la meilleure façon possible. En fait, c'est wait and see. On attend d'abord de se qualifier pour peut-être recruter des joueurs niveau Ligue des Champions. C'est ça, Edouard ?
Oui, mais il faut quand même recruter parce qu'en plus, vous avez la période, les meilleurs joueurs vont être, alors plus en Coupe du Monde, mais sur le chemin du retour, hein, Pavel Schultz, Moussa Niakate, Nicolas Tagliafico, s'ils sont encore dans l'effectif. Mais en tout cas, au niveau de la forme, ils auront eu, eux, une compétition en plus au début de l'été. Donc, des états de forme disparates. Là, le préparateur physique, il doit déjà être sur ses petites fiches et sur son tableau Excel pour savoir un peu comment ça va se passer, mais c'est un vrai casse-tête.
Oui, on n'a pas le tableau final encore, mais par exemple, on peut se souvenir du parcours de Lille en barrage, en tour préliminaire et en barrage. C'était le Slavia Prague et Fenerbahçe. Donc évidemment, des déplacements difficiles. Annalie, toi, tu préfères aller en phase de Ligue des Champions sans savoir ce que tu peux avoir comme ambition ou retourner en Ligue Europa et peut-être essayer d'aller au bout? Je te taquine, évidemment.
Ah bah bien sûr, la Ligue des Champions.
Et t'es confiante pour ces tours préliminaires, justement, avec la problématique du calendrier?
C'est toujours un peu casse-gueule, ces tours préliminaires. Les clubs français se sont souvent cassés les dents dessus, parce que déjà, 4 matchs au mois d'août, il faut que tu sois prêt de suite, en fait. T'as pas Alors, c'est une manche aller-retour, mais t'as pas le droit de flancher. Si tu te plantes dès le match aller du troisième tour préliminaire, il faut déjà refaire un effort pour... au match retour, donc il faut être prêt tout de suite. Après, ça dépendra, prêt tout de suite physiquement, mais aussi bon, dans la tête, forcément. Donc c'est piégeux, et comme Edouard l'a dit, ça dépendra aussi des forces en présence qui aura dans l'effectif à ce moment-là, si on récupérera les mondialistes, s'ils sont toujours dans l'effectif. C'est, il y a beaucoup d'interrogations, mais évidemment, à choisir la Ligue des Champions, forcément.
Oui, Jean-Marc, toi qui as été joueur, qui connais les prépas, Edouard pointait du doigt la difficulté de commencer début août, alors que le championnat ne débute qu'un mois plus tard. Comment on aborde ça quand on est joueur? On est excité de jouer ces tours préliminaires ou c'est vraiment une galère à aborder?
Oh bah, non, c'est toujours bien. Vous savez, la préparation, c'est ce qu'aiment le moins les joueurs de football, mais on est obligé de passer par là. Il y a des matchs amicaux à faire. Bon, bah là, il y aura peut-être moins de matchs amicaux à faire et les matchs amicaux se feront justement dans ces tours-là qui sont hyper importants.
Et tu as connu d'ailleurs Maribor et Inter Bratislava 99-2000 et 2000-2001,
si je ne Alors, je n'ai pas connu Maribor, mais c'était, oui, 2000-2001, c'était Bratislava où on avait fait un tour préliminaire justement fin de mois d'août et puis ça nous avait permis ensuite de basculer en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça met tôt dans la compétition, il faut être prêt plus mentalement que physiquement, parce qu'on sait que physiquement, voilà, on n'est pas prêt. En même temps, il faut se dire que les autres équipes aussi qu'on rencontre, elles sont dans le même état de préparation. Donc après, ça se joue, voilà, au mental, à être prêt à l'instant T. Mais c'est sûr que, voilà, dans le cadre d'une préparation de saison, c'est jamais simple, parce que, voilà, il y a déjà des efforts à fournir dans une phase de préparation avec des gros enjeux. Et puis après, cerise sur le gâteau, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on ne passe pas? Donc voilà, il y a une grosse incertitude. Mais bon, voilà, Lyon, si Lyon en est là, c'est qu'on n'a pas su faire autrement. Et puis il faudra s'adapter à cette situation. En même temps, je pense qu'on peut faire quand même confiance à la cellule de recrutement au regard de la saison dernière où, pareillement, malgré une grande incertitude, Lyon est arrivé quand même à recruter intelligemment.
Donc, on peut espérer quelques miracles. Bah justement, Edouard, dis-nous. Alors, Hendrik, tu nous l'as annoncé il y a plusieurs semaines. Mathieu Louis-Jean l'a confirmé. Hendrik ne restera pas. Déjà, première information,
oui,
Edouard.
Oui, ça c'est. C'était, comme je le disais, un fantasme un peu de tout le monde. Mais à la compta et les dirigeants, on sait qu'on ne pouvait pas donner les salaires d'un niveau Hendrik. Fatalement, s'il fait des efforts et il voulait rester, il n'y a pas de problème. Mais bon, en plus, le Real, visiblement, veut le revoir. Donc, il y a le sort aussi de tous les joueurs prêtés. Ansa Tebboure, Yarim Chouk, Karabek.
C'est moins grave, on l'embrasse, Ansa Tebboure, mais c'est vrai que c'est un peu moins grave dans les
petits pieds. Je parle pour peut-être la. Il faut régler ces problèmes-là parce qu'il y a des options d'achat à ne pas lever, par exemple. Mais Yarim Chouk, que faire? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? Ensuite, il y a les jeunes Enzo Molebe qui a fait un bon prêt du côté de Montpellier ou Alejandro Gomez Rodriguez au FC Annecy aussi. Est-ce qu'ils peuvent prétendre à être dans cette équipe l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir des petits jeunes qui vont monter? Et puis surtout, on a parlé d'un mercato malin et organisé pour l'OL l'année dernière, tellement malin et organisé qu'il y a certains joueurs qui ont pris de la valeur. Oui. S'il y a quelques propositions pour des joueurs, pour un Schulz, pour un Niakate, alors Niakate il est plus
Morton.
Ancien, évidemment, dans le Morton, Afonso Moreira, Malik
Fofana. Tu penses
Fofana,
que Moreira, s'il peut être attaqué, puisqu'on l'a prolongé, donc lui il a envie de rester et jouer la Coupe d'Europe avec l'OL, c'est le genre de joueur qu'il faut quand même sceller à Lyon.
Oui, alors exactement. Alors après, je rappelle toujours cet exemple de Ruben Kluivert, la proposition d'un club anglais, je ne sais plus lequel, il me semble que c'était Crystal Palace
oui.
Près de 30 millions d'euros, c'est le chiffre qu'on m'avait sorti pour le dernier jour du mercato de janvier, et Michel Kang avait dit non, alors que quand on sait les dettes abyssales et tout l'argent qu'il faut avant le 30 juin 2027, donc dans 18 mois, vous imaginez demain une telle proposition, comme on dit certaines stations de ski, je ne veux pas vendre, mais ça dépend juste du prix, quoi. Donc là, il va falloir voir comment, entre le sportif et puis le financier, tout cela va s'organiser. Et c'est là aussi le vrai casse-tête, parce que tu dois aussi faire sur des projections, est-ce que tu vas être en Ligue des Champions ou pas, en sachant que l'OL, dans tous les cas de figure, même s'il y a un terrible tremblement de terre dès le 11 août, match retour du tour de qualificatif, sera quand même en Europa League. Donc il y aura quand même cette roue de secours-là. Et là, ça fait quand même 25-30 millions d'euros qui tomberaient dans l'escarcelle. Mais la Ligue des Champions, c'est facilement
le double. Est-ce que, Jean-Marc, je sais que tu vas devoir nous quitter dans pas pas trop longtemps, mais j'ai envie d'avoir ton point de vue sur Paulo Fonseca, parce qu'à un moment donné, il avait un pourcentage de victoire qui le plaçait au niveau de Gérard Rouillet dans l'histoire des entraîneurs lyonnais. On l'encensait, nous les premiers, et puis ça s'est un petit peu cassé la figure en deuxième partie de saison, avec l'élimination en Europa League en Coupe de France. Toi, c'est quoi ton œil sur Paulo Fonseca? À quel niveau tu le places? Est-ce que tu lui fais confiance pour aller remporter des titres avec l'Olympique lyonnais dans un avenir plus ou moins lointain?
C'est difficile à dire, non. Ben, c'est un entraîneur qui montre qu'il a une capacité quand même à savoir gérer et obtenir des résultats avec l'effectif qu'il a. Après, de là aller plus loin, je pourrais pas le dire. J'ai parfois l'impression un peu qu'il manque de tempérament, de caractère dans des prises de décision, dans des moments importants de match, vous voyez. Alors est-ce que ce ne sera pas préjudiciable dans le futur pour l'OL, je me demande. Voilà, il a un certain niveau, mais est-ce que il a le niveau suffisant pour faire grandir Lyon, je sais pas.
Tu le vois, tu as envie de le voir rester la saison prochaine au moins en Ligue des Champions pour voir si ça se passe bien?
Oui.
Ou quand même.
Ah oui, non, tout à fait, non. Voilà, mais vous savez qu'aujourd'hui la durée de vie des entraîneurs, elle est très courte. Donc oui, moi je souhaite qu'il reste. Et puis je pense que s'il reste, il fera encore quelque chose. Après, quelles sont ses limites justement d'en tirer le meilleur d'un effectif, je pourrais pas le dire. Mais bon, au regard de ce qu'il a fait là sur sa période, non, il faut qu'il continue.
Bon, merci beaucoup Jean-Marc. Je crois que tu dois filer, donc on va continuer quelque peu ce podcast. Mais bon, je te remercie
merci
beaucoup Jean-Marc Chanelet,
un
double
beaucoup.
Champion de France avec l'Olympique Lyonnais qui nous a fait le plaisir de débriefer cette dernière journée. Alors malheureusement, qui s'est très mal passé avec cette défaite 4-0, mais la qualif en tour préliminaire de Ligue des Champions. Toi, Nali, ton avis sur un Paulo Fonseca qu'on a encensé à un moment donné et qui là s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur la fin de saison à Lille? Ça n'a jamais été non plus extraordinaire. Il y a souvent eu du beau jeu, mais ça termine à chaque fois 4-5e. À la Roma, pareil. À la Milan, ça se termine mal. Finalement, est-ce qu'on surestime pas un petit peu Paulo Fonseca?
Après, il l'a fait avec les moyens du bord aussi. Il y a une période dans la saison où les blessés à l'infirmerie, c'était la queue. Donc, il a fait avec ce qu'il pouvait. Après, oui, il y a certains choix qui peuvent être discutables. Alors, je vais pas en sortir un en particulier, mais pour moi, je pense qu'il a les capacités pour gérer ce groupe, d'essayer de l'amener. Alors, Ligue des Champions, la phase de Ligue déjà. Après, on verra plus tard. Mais après, j'ai envie de le voir sur la longueur. Alors, Jean-Marc le disait, les durées de vie des entraîneurs sont peu longues.
Courtes, évidemment. Voilà, oui, dépasser les 18 mois, déjà, c'est pas mal.
Il est
dans les clous.
Il est dans les clous, donc à voir. Après, on va avoir aussi les outils qu'il aura sous la main au niveau de l'effectif.
Bon, Edouard, on a parlé justement des moyens financiers, peut-être le recrutement, il va falloir être malin encore, on le sait, on va pas pouvoir dégainer des dizaines de millions d'euros pour recruter des stars. Il y a aussi le dossier de la vente, tout simplement, Edouard, du côté de l'Olympique Lyonnais. Où en est-on exactement, puisque ça va être un des chantiers de l'été, même si là, il y a la licence UEFA, il n'y aura pas de problème de qualification pour la Coupe d'Europe?
Oui, ça c'est déjà gagné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors peut-être pas, mais un Premier ministre de la France entre 2002 et 2005, Jean-Pierre Raffarin et ses raffarinades. Notre route est droite, mais la pente est forte. C'est ce qu'il disait quand
c'est
il
beau.
Était arrivé à la tête du gouvernement en 2002. Ben, pour les dirigeants, c'est un petit peu ça, que ce soit pour le sportif, on en a parlé, mais aussi pour Michel Kang et Michael Gerlinger, parce que la to-do list hein, des dirigeants au niveau financier, ben, ça a vraiment des allures d'Himalaya Bank. Parce qu'il faut trouver, je vous en parlais tout à l'heure, quelques 150 millions d'euros d'ici juin l'année prochaine. Il y a des dettes qui dorment, qu'il faut travailler avec les créanciers pour savoir s'ils veulent éventuellement en effacer une partie. Et puis surtout, tu en as parlé de la vente. C'est le préalable avant le passage devant la DNCG et puis les contacts aussi avec l'UEFA, parce que les instances, que ce soit françaises ou européennes, veulent avoir affaire à un ou une patronne, mais en tout cas à un interlocuteur un vrai, un dur, un tatoué, on va dire, qui n'est pas perdu dans la multipropriété de John Textor. Donc, il faut dépecer un petit peu tout ça. Alors, vous avez suivi tous les dossiers. La semaine dernière, à Lyon, c'est désormais persona non grata totale, mais maintenant, c'est aussi à Rio. Donc, tout cela peut faciliter les choses parce qu'on est en train, au niveau d'un administrateur qui est à la tête de la holding qui gère tous les clubs, de vendre un petit peu tout le club et du coup toutes les entités et du coup de l'OL. Eh bien, il y a cette vente qui devrait intervenir en sachant qu'il y a une commission ad hoc qui a été nommée la fin mars dernier. Donc on travaille. Alors là, c'est tout plein d'informations que l'on ne peut pas avoir, hein, parce que tout ça se traite dans les bureaux feutrés de banquiers et autres avocats d'affaires ou notaires.
Mais du coup, il faut être inquiet, Edouard, ou pas, parce que la deadline, c'est dans pas si longtemps.
Oui, mais en fait, il y a beaucoup de rumeurs sur des potentiels acheteurs. Alors, il doit y avoir des dossiers de personnes qui doivent venir. Mais en tout cas, il y a un duo qui est aux affaires actuellement. C'est Arès, le prêteur, celui qui a prêté l'argent à Michel Kang. Et Michel Kang, qui, avec Michael Gerlinger et tous les dirigeants, font un travail formidable parce que, mine de rien, alors certes, les chiffres sont... La dette est abyssale, mais c'est en poste de Textor. Si on enlève ça... on a vu que les chiffres des comptes récents sont presque à l'équilibre sur le fonctionnement parce que la masse salariale a baissé, parce que les entrées sont bonnes, les résultats financiers aussi sont pas trop mal. Donc il peut y avoir une palme pour ceux qui ont bien réussi jusqu'à présent. Et puis, comme dirait l'autre, ils habitent dans le quartier, ils savent, ils connaissent tout ça. Et donc il y a quand même un privilège pour Michel Kang et aux côtés d'Arès. Reste à savoir si tout cela va pas être avalé par quelqu'un. Mais sans grosse surprise, normalement, c'est
le scénario attendu cet été. Voilà. Et voilà. On peut quand même avant rêver fin juin, à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, au pire, l'Europa League que l'OL aurait pu remporter cette saison, ce sera un des grands regrets. Rapidement, Anali et Edouard, pour terminer, votre meilleur joueur de la saison, le award du meilleur Lyonnais. Anali.
Corentin Tolisso.
Corentin Coco. Et toi, Edouard ?
Oui, bah fatalement Corentin Tolisso, mais je vais mettre Afonso Moreira parce que c'est une surprise, on ne le connaissait pas, il était en Détroit portugaise l'année dernière et puis que de progrès en un an. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un jeune avoir autant de progrès aussi rapide. J'enlève bien évidemment Karim Benzema de ce schéma parce qu'il est hors catégorie.
Et tu t'es piégé tout seul parce que j'allais demander justement votre plus belle découverte de l'effectif, donc tu vas devoir me trouver un autre nom que Afonso Moreira. Anali, je commence par toi du coup.
Pavel Schulz.
Pavel Schulz, ok, bah oui, parce que c'est vrai qu'on ne le connaissait pas et finalement, bon, il est un petit peu déçu sur la fin de saison malgré tout, mais ça te laisse une bonne image quand même de lui.
Ouais, je ne le connaissais absolument pas, pour être cash, et comme je pense la plupart des supporters lyonnais, quand il est arrivé, on s'est dit où est-ce qu'on allait le débusquer. Et de par son profil et de son implication aussi, et son look aussi, un petit peu particulier.
Ça marche. Mais ça compte.
Mais non, j'étais surprise. Alors oui, effectivement, les derniers matchs ont été un peu plus compliqués, mais franchement, très belle découverte.
Edouard, outre Afonso Moreira alors ?
Allez, moi je vais faire Academy, Made in Academy, je vais mettre Rémi Humbert. Eh oui. J'aurais pu mettre Alice Mera, mais Rémi Humbert, si je peux partager en deux, Alice Mera, parce que finalement il a bien été bien présent tout au long de l'année, et Rémi Humbert, c'est lui aussi pour sa projection là, parce que...
Le but qui me veut le drôme avec le caractère qu'il a, c'est vrai que ça donne envie de le voir progresser avec le maillot de l'OL.
Exactement, exactement, et puis c'est vraiment... Paulo Fonseca a cru en lui comme en Rallis Mera au mois de mai dernier, l'a sorti un peu de la formation pour le mettre dans l'équipe, la préparation de l'été. Il a fait son trou et puis voilà, sans cette blessure, il aurait eu un mot à dire.
Et il y aura de la place pour les jeunes, parce que moi je pense toujours à l'OM avec Vaz et Bacola qui se font dégager au bout de 6 mois avec des problèmes de contrat alors qu'ils étaient en train de progresser. Au moins à l'OL, on peut espérer quand même profiter de ces joueurs-là, Mera, Humbert.
Oui, et puis d'autres qui vont arriver derrière parce qu'il y a des bonnes générations. Et puis, de toute façon, l'OL s'est toujours appuyé sur son académie, sur son centre de formation. Et puis en plus, Paulo Fonseca aime donner la chance aux jeunes et on les voit, il les fait progresser. Donc, à ce niveau-là, ça peut être une nouvelle fois des grandes, grandes possibilités pour l'avenir de l'OL.
Allez, l'OL a pris une danse pour la dernière journée de Ligue 1 contre Lens. Mais nous, on va se quitter pour cette saison, The Last Dance, effectivement. Mais nous, on va garder le sourire, on va se retrouver. retrouver, on l'espère, en Ligue des Champions la saison prochaine. Annalie, Edouard, merci beaucoup pour cette saison d'After Lyon. On était de retour sur RMC.
C'était bien sympa ce débrief,
oui,
tous les
absolument.
Lundis.
Vous écoutez ça en podcast sur toutes les plateformes. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça nous aide aussi à exister, à continuer de parler de l'Olympique Lyonnais toutes les semaines. Très bel été à tous. Ciao les amis.
Ciao, ciao.
RMC, After Lyon.